Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Depuis l'annonce de son existence en fin 2019, le coronavirus n'a toujours pas de traitement définitif ni de vaccin officiel à ces jours. Mais depuis quelques mois, le monde scientifique parle de plus en plus d'un certain nombre de vaccins qui seraient en bonne voie pour devenir les vaccins susceptibles de combattre le coronavirus dans les jours à venir. Il s'agit notamment du Sputnik 5 russe, du Pfizer Biotech américano-allemand et du Moderna américain. Les vaccinations contre le Covid-19 devraient commencer la semaine prochaine au Royaume-Uni et en Russie. Que vous inspirent ces recherches sur le coronavirus et ses vaccins annoncés? Et quel rôle la RDC et l'Afrique peuvent concrètement jouer dans la recherche d'un traitement efficace? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Dr Michel Mouvoudi, il est médecin, expert en santé publique et les membres de la riposte contre la Covid-19. Bonsoir Dr Michel Mouvoudi.
Bonsoir Monsieur Guimatin.
Dany Singoma, il est directeur général du CNADEP, coordonnateur de la dynamique citoyenne Covid-19. Il est aussi coordonnateur entrant du cadre des concertations nationales de la société civile. Bonsoir Monsieur Dany Singoma.
Bonsoir.
Et lui, c'est le docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Il est ancien médecin-chef des zones de santé d'Opala et il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Point de presse mardi dernier à Kinshasa du pôle scientifique des professeurs et chercheurs initiés par le ministère de la Recherche scientifique pour trouver le protocole pouvant soigner la Covid-19. Occasion pour ces experts de rappeler que tous les protocoles sont encore en essai. Aucun médecin ni chercheur ne peut ainsi dire que son protocole a été bloqué par les poules scientifiques. Allusion faite selon ces poules à certains médecins qui accuseraient les membres de ces poules d'être subjectifs. On écoute le professeur Jacques Kokolomani, rapporteur de ces poules scientifiques, au micro de Richard Junior Kamunga.
Pour n'importe quel produit, pour pouvoir le mettre sur le marché, il y a des critères. Et lorsque ce produit s'appelle médicament, il y a encore des critères plus stricts. Deux de ces critères fondamentaux. Nous devons vérifier si ce médicament, un, est efficace. Le deuxième critère, c'est la sûreté. Est-ce que ce produit-là, quand on le donne, il ne cause aucun dommage aux gens qui le prennent? Nous avons été, en tant que pôle scientifique, en contact avec un certain nombre de promoteurs de produits, mais le pôle scientifique ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ok, pour chacun de vous, voici ce qui manque dans votre document pour que ce soit un protocole d'essai clinique qui est valide. Malheureusement, après ça, aucun d'eux n'est revenu pour dire « voici, j'ai amélioré mon protocole, est-ce que maintenant il est valide et vous pouvez l'accepter pour un essai clinique ?»
Docteur Michel Mouvoudi, nous rappelons que vous êtes médecin expert en santé publique, vous êtes membre de la riposte contre la Covid-19. Depuis plusieurs jours, des annonces sont faites à travers le monde par plusieurs firmes au sujet de la mise sur pied, n'est-ce pas, des vaccins contre la Covid-19. Des nouvelles très attendues compte tenu des dégâts que cause cette pandémie. Et que vous inspirent ces différentes annonces, docteur Michel Mouvoudi?
Merci beaucoup, M. Guimaté. Encore une fois de plus, merci de m'avoir associé à ce débat pour éclairer l'opinion autour de ces dynamiques sur l'immunisation, donc la vaccination de la Covid-19. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin sauve des millions de vies chaque année. Il faut savoir que la Covid-19 est aussi une maladie évitable par la vaccination. Nous l'avons mentionné plusieurs fois sur la radio Capi. Et comprendre aussi que les gens savaient que en dehors du traitement qui était justement une piste importante sur laquelle il fallait travailler, il fallait aussi justement, excusez-moi, travailler sur la prévention. Et la vaccination était un moyen important de prévention. Et donc tous les pays se sont lancés sur cette piste pour essayer justement d'avoir un outil très efficace qui pourrait aider à mettre fin à la propagation du coronavirus. Rappelez-vous qu'il y avait plus de 169 candidats qui s'étaient lancés dans les essais cliniques autour de la vaccination. après évolution 26, ont eu le quitus de passer sur les essais chez l'homme. Et jusque-là, on commence justement à voir qu'il y a des vaccins qui donnent des lueurs d'espoir. Mais il faut noter, comme vous l'avez mentionné, M. Guimaté, qu'il n'y a pas encore de vaccins homologués par l'OMS, mais ce sont des décisions prises sur base des essais cliniques qui commencent déjà à se dire est-ce qu'on ne pourrait pas passer par la phase de la vaccination proprement dite. Mais encore une fois de plus, il faut attendre un certain nombre de points pour pouvoir avoir l'homologation de l'OMS.
Oui, docteur, ces annonces arrivent presque au même moment. Est-ce une simple coïncidence ou c'est plutôt le reflet de la détermination des différentes firmes et puissances étatiques d'être les premiers sur ces marchés qui s'annoncent très lucratifs?
Non, ce qu'il faut savoir, M. Guy, c'est qu'en fait, ceux qui travaillent sous ces genres d'outils, notamment les essais sur les vaccins, c'est des institutions qui collaborent, qui discutent, mais aussi qui peuvent échanger sur un certain nombre de protocoles. Donc, le fait d'avoir maintenant là cette floraison d'institutions qui présentent un vaccin pouvant être efficace, c'est pas un fait du hasard, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, au départ, il y avait un nombre qui était déjà inclus. Je vous ai parlé de plus de 169. Après, il y a eu 26 qui ont commencé les essais sur les hommes. Donc, il y avait tout un calendrier mondial sur lequel les différents acteurs étaient en train de travailler. Et donc, aujourd'hui, on a justement les résultats que nous commençons à palper du doigt. Encore une fois de plus, j'insiste sur le fait que il s'agit des décisions pays, comme vous l'avez remarqué. Il y en a qui commencent la semaine prochaine au Royaume-Uni ou je ne sais pas où. Mais encore une fois, il faut attendre l'homologation de ces vaccins par l'OMS pour dire, voilà, d'autres pays peuvent l'utiliser.
C'est vrai qu'il faut attendre, comme vous le dites, l'homologation de l'OMS. Mais docteur, on voit comment les pays, notamment les puissances occidentales, se mobilisent pour mettre en place des conditions afin de mieux accueillir ces nouveaux vaccins et des dispositions qu'ils prennent pour être parmi les premiers, n'est-ce pas, à y accéder. Mais les pays africains, dont notre pays, la RDC, semblent rester silencieux, en train d'observer. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cette attitude des pays africains?
Alors, il faut que je vous donne peut-être l'information. Donc, la première information, c'est que au niveau mondial, on a ce qu'on appelle le COVAX. En fait, le COVAX, c'est un mécanisme qui a été mis en place et soutenu par l'alliance Gavi. Gavi, c'est une alliance qui travaille beaucoup sur la vaccination. Et l'OMS, pour faire justement en sorte que, lorsque le vaccin va sortir, que l'ensemble des pays puissent y avoir accès, y compris les pays à revenus faibles ou à revenus moyens. Donc ça, c'est très important. Et donc, on est en train de discuter pour voir comment mobiliser les ressources et permettre à ce que l'on ait justement des personnes vaccinées, y compris dans les pays où on n'a pas suffisamment de moyens. Deuxième élément, le mécanisme COVAX va aussi permettre à ce qu'on identifie toutes les opportunités logistiques. Okay, parce que le vaccin va devoir exiger des conditions de conservation, des conditions de transport, il faut former le personnel pour pouvoir l'utiliser, ainsi de suite. Et donc, tout ceci est en train d'être étudié pour voir dans quelle mesure on pourrait justement faire une vaccination de qualité et protéger les vies. Alors, sur le plan africain, il a été demandé à tous les pays d'anticiper déjà sur cette préparation-là. Il ne faut pas attendre quand le vaccin est là pour se poser la question de savoir mais où est-ce qu'on va les conserver, comment est-ce qu'on va les faire arriver dans l'arrière-pays, mais qui est-ce qu'on va vacciner. Rappelez-vous, pour votre information, M. Guy, ce vaccin ne sera pas donné à tout le monde. Ce vaccin va être donné principalement aux personnes à risque, notamment les personnes âgées, les professionnels de santé ou des gens qui présentent des maladies qui constituent des facteurs de risque de mortalité de la COVID-19. Maintenant, en RDC, le travail qui est en train de se faire, pour votre information, un comité technique est déjà mis en place sous le leadership du secrétaire général à la santé. Et ce comité est en train de réfléchir sur les mécanismes logistiques techniques afin de permettre à ce que, lorsqu'on a le vaccin, qu'on puisse correctement l'amener auprès de la population. Et donc, nous partons sur des expériences. La RDC, c'est un grand pays qui a des très bonnes expériences en matière de vaccination. On l'a fait avec l'Ebola, on le fait avec la polio, on le fait avec la rougeole. Et donc, nous bâtissons sur ça pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la communication. Donc, cette équipe est en train déjà d'élaborer des outils parce qu'un défi important que va engendrer la vaccination, c'est le défi de l'acceptation sociale. Il ne faudra pas l'imposer. Il faudra justement commencer à communiquer pour que lorsqu'on va dire qu'on va vacciner, que les gens l'acceptent. On est en santé publique, on ne va pas obliger les gens à prendre le vaccin, mais justement, il faut communiquer pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et comment ce vaccin peut aider. Nous l'avons fait avec l'Ebola. Aujourd'hui, le succès qu'on a eu sur les deux épidémies d'Ebola, ça a été principalement sur la vaccination. C'est vrai, avec ce qu'on a connu avant, ça n'a pas été facile, mais la communication va être importante et comme je l'ai toujours mentionné, la participation de la population est à obtenir pour avoir des résultats probants. Le troisième élément, c'est le volet politique. Je crois que là-dessus, M. Dimaté, il faut justement qu'on nous aide, nous les techniciens, parce que lorsque nous allons amorcer ce processus, on aura besoin aussi d'un engagement politique, mais aussi tous les décideurs qui sont dans ces réseaux, qu'ils soient capables d'apporter les bons messages à la population, qu'ils soient capables de pouvoir soutenir l'action, parce qu'il faut éviter des messages contradictoires, il faut éviter des messages de sabotage, parce qu'en fait, in fine, ça peut engendrer des résistances communautaires et qui tournent parfois mal à l'endroit des personnels de santé que nous sommes. Le vaccin va concerner presque 20% de la population et ça sera principalement les populations à risque.
Oui, voilà. Docteur, on vous dit, l'émission est aussi pédagogique. Hein. Est-ce que vous pouvez nous résumer les différentes étapes pour parvenir, n'est-ce pas, à un vaccin qui soit prêt à être utilisé?
Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails. Il faut savoir que lorsque vous voulez mettre en place un vaccin, d'abord, premièrement, vous partez des matières que vous allez utiliser, d'accord? Il y a des laboratoires qui déposent des autorisations au niveau de leur pays pour pouvoir obtenir déjà le développement de la molécule. Ça peut être un laboratoire qui fait de la chimie, ça peut être un laboratoire qui développe des molécules variées. Et donc, vous allez dire, écoutez, moi, je m'appelle X, je voudrais justement me lancer sur la fabrication d'un vaccin tel. Voilà les éléments que j'ai. Vous vous inscrivez. Et donc c'est comme ça que vous avez vu au début, on avait plus de 160 candidats qui se sont inscrits pour pouvoir déjà commencer le développement. Et ce développement se fait généralement sur des animaux. Et après, lorsque vous commencez ce développement-là, donc au niveau déjà de vos pays, vous obtenez les autorisations de pouvoir lancer cela, ce qu'on appelle les autorisations des comités d'éthique, pour s'assurer que le protocole rejoint ce qui doit être fait et qu'il n'y a pas des questions d'éthique qui sont touchées. Alors, quand vous allez présenter ces résultats préliminaires, après des tests qui vont être prouvés par des scientifiques que, justement, le vaccin a une certaine sûreté, que le vaccin n'a pas d'effet visible sur des animaux utilisés, on peut, à ce moment-là, après une très grande évaluation, très robuste, on peut vous autoriser de passer maintenant sur les humains. Et donc, c'est comme ça que vous avez vu dans le cadre de la Covid, il y a eu 26 seulement. Regardez déjà, M. Dimaté, de 169 au-delà, on est tombé qu'à 26 sur qui on a demandé de faire des essais sur l'homme. Je parle bien des essais. Et vous allez démontrer ces résultats, et c'est à partir de ces résultats, justement, qu'on va se dire, écoutez, on a justement testé ce vaccin, et on a vu les résultats de ce vaccin sur les personnes testées, et si les différences sont significatives en termes de, oui, mais ceux qu'on a vaccinés montrent justement une résistance par rapport à ceux qu'on n'a pas vaccinés, et à ce moment-là, l'OMS va passer tout ce que vous avez fait au PNFIN pour vraiment homologuer le vaccin, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on autorise le vaccin à être utilisé à échelle mondiale, avec une homologation de l'OMS.
Merci, docteur. Nous vous gardons encore dans cette émission. Docteur Vincent Okoyo, vous êtes député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Vous êtes ancien médecin, chef des zones de santé d'Opala. Est-ce que vous êtes là, docteur Vincent Okoyo?
Oui, bonjour Guimate, je suis en ligne.
Bonsoir docteur, vous êtes médecin, et comment vous avez réagi à toutes ces annonces faisant état de la mise sur pied des vaccins contre la Covid-19?
Bon, d'abord c'est reçu comme une bonne nouvelle pour l'humanité et pour les pays moins développés notamment. Une bonne nouvelle dans le sens que à une pandémie comme celle de la Covid-19, la solution qui peut rassurer, qui peut stabiliser la situation et remettre les gens au travail, c'est le vaccin. En dehors d'un traitement médicamenteux qui n'existe pas contre une maladie virale notamment, en dehors de ce traitement médicamenteux, l'annonce de la découverte d'un vaccin déjà utilisable pour immuniser la population mondiale est une bonne annonce. Bon, évidemment, autour de ça, il y a toute la rumeur qui circule, mais nous pensons que cette annonce-là, en soi, est une bonne annonce pour l'humanité, une bonne annonce dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, et donc porteuse d'espoir pour des millions, des milliards d'êtres humains à travers le monde.
Voilà, donc pour vous c'est une bonne annonce, mais docteur Vincent Okoyo, il y a des défis à relever. Hein. L'on parle de la durée de l'immunité, il est dit que l'immunité que produit ces différents vaccins est d'une durée d'une année seulement. Et donc, les gens, du coup, seront obligés de se faire vacciner chaque année avec tout ce que cela implique, n'est-ce pas, en termes financiers notamment. Et un autre défi, c'est l'accès à ces produits que le monde entier attend. Et à votre avis, comment pourra-t-on résoudre tous ces problèmes? L'accès à ces produits et puis la durée de l'immunité.
Dans un premier temps, il y a plusieurs défis, hein. Il n'y a pas que ceux que vous avez énumérés, mais commençons par celui que vous avez évoqué, la durée de l'immunité. Et c'est vrai, ce ne sera pas la première fois, hein. Il y a beaucoup d'autres vaccins qui demandent que la dose soit répétée pour pouvoir booster l'immunité. Ça signifie qu'à un moment donné, il faut booster l'immunité à partir d'une première dose de vaccin reçu. Vous le voyez chez les enfants, on exige un minimum de 3 doses, par exemple, pour le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Un minimum de 3 doses. Cela, c'est pour garantir une certaine durabilité de l'immunité dans l'organisme. On ne sera pas à notre première expérience par rapport à une immunité limité dans le temps. Et vous savez que même le vaccin contre la rougeole ne garantit pas à 100% que la personne est totalement ou définitivement immunisée. Et donc, pour moi, je considère que c'est un premier pas. Si déjà à cette période où les risques de reconfinement menacent plusieurs pays à travers le monde et même exécutés dans certains pays, on peut trouver un vaccin qui garantissent une année de répit à l'humanité. Entre-temps, la recherche va se poursuivre, parce qu'on ne dit pas qu'avec ce vaccin qui pourra peut-être être utilisé d'ici là, que la recherche s'arrête par là. À partir de constats qu'on aura faits, la recherche va se poursuivre pour voir de quelle façon garantir une immunité plus durable et plus efficace aux bénéficiaires. Il y a le défi du financement. Je crois qu'il y a des mécanismes déjà utilisés dans le monde. Il y a certainement des bailleurs de fonds, des hommes de bonne volonté qui vont mettre la main dans la poche et participer aux mécanismes. Et les États dans leur ensemble, notamment à travers l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, qui certainement vont participer au financement de ces vaccins afin qu'ils soient rendus accessibles au plus grand nombre, si pas à tout le monde. Mais il y a beaucoup d'autres défis. Je veux citer un seul, c'est celui de la chaîne de froid. Je crois que vous suivez. Le vaccin actuellement trouvé doit être conservé à une température très basse, entre 60 et 80 degrés. Et donc, à mon avis, c'est le plus grand défi, parce que dans certains pays et dans certaines conditions, il est pratiquement impossible d'obtenir les conditions optimales de conservation de ces vaccins. Et donc là, nous osons croire que sa diffusion à travers le monde lance encore des défis scientifiques, logistiques et matériels importants pour pouvoir être rendu disponible, notamment dans les pays sous-développés.
Voilà, s'agissant toujours de cette question sur l'immunité, et comment vous expliquez, docteur, qu'il y a des vaccins, quand vous en bénéficiez, et ils vont vous immuniser presque toute la vie, hein? C'est des vaccins que nous avons eus quand nous étions encore enfants. Mais il y en a aussi qui, pour créer une véritable immunité, on doit les faire plusieurs fois. Et vous avez parlé, n'est-ce pas, de booster l'immunité. Est-ce qu'au-delà des explications que vous avez données, est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons mercantilistes, n'est-ce pas, des scientifiques par rapport à cette durée?
Je crois que les anticorps ont une durée de vie aussi limitée. Et ce sont en fait des protéines spécifiques qui sont fabriquées par notre organisme pour contrer l'invasion du corps par un agent pathogène. Et il peut arriver que vous avez été immunisé dans votre enfance, mais que vous n'êtes plus en contact, en tout cas absolument plus en contact avec le germe, et que plusieurs années plus tard, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les lymphocytes en mémoire qui restent, qui gardent la mémoire de l'agent pathogène. Et s'il y a un contact, le temps nécessaire pour que l'organisme réveille ses lymphocytes à mémoire afin de pouvoir reconnaître l'agent pathogène peut devenir relativement long pour défendre votre organisme. Je ne suis pas immunologue chevronné. Je crois que cette question peut être posée à des spécialistes d'immunologie, c'est-à-dire ceux qui étudient le système de défense immunitaire de notre organisme. Ils peuvent nous donner beaucoup plus de détails et de précisions là-dessus, mais je crois que c'est probablement lié à la réaction de l'organisme vis-à-vis de l'agent concerné. Vous savez que les virus sont des agents assez dupes, donc qui arrivent à rouler, à dribbler les systèmes immunitaires ainsi que les cellules de défense de l'organisme. Et il se peut qu'au bout d'un certain temps, les anticorps qui sont fabriqués pour défendre notre corps, ce sont des protéines qui ne résistent pas au-delà d'une certaine période. Ça peut être l'explication à première vue, mais ce n'est pas pour des raisons mercantilistes, parce qu'en fait, de ces vaccins-là, on n'attendrait pas une commercialisation en termes de marchandises. Je viens de vous dire que les mécanismes de financement à travers le monde recourent notamment à des bailleurs de fonds, à des hommes de bonne volonté, mais aussi au système des agences des Nations Unies qui apportent de l'argent pour faciliter la disponibilité des vaccins, notamment dans les pays sous-développés qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas que ce soit vraiment des visées mercantilistes.
Merci, docteur Vincent Okoyo. Dany Singoma, vous êtes directeur général du SENADEP et coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19. Vous êtes aussi coordonnateur entrant du cadre des concertations nationales de la société civile. Et comment vous avez accueilli ces nouvelles faisant état de la découverte de ces différents vaccins contre le coronavirus?
Ah, salut mon ami Guy Maté, nous sommes très heureux de participer à cette émission dans la fièvre aussi de prendre la coordination de la déconfiguration civile. Nous, cette nouvelle des vaccins, nous l'avons accueillie il y a très longtemps. Ce n'est pas simplement maintenant. Ce qui nous étonne, c'est le fait de voir que quand il s'agit de grandes firmes qui veulent faire sortir un vaccin, ils le font à coup de médias et de grandes publicités qui font en sorte que le monde entier pense que la panacée se trouve de ce côté-là. Alors qu'il y a des chercheurs africains qui ont commencé et personne ne les a soutenus, ou du moins ils ont été faiblement soutenus. Ça, c'est déjà la première question. Deuxièmement, quand il y a l'Afrique du Sud et l'Inde qui ont demandé, déjà au mois de septembre, que l'Assemblée générale des Nations Unies puisse inscrire la question du vaccin et de Covid, mais cette proposition avait été rejetée par les États-Unis. En septembre, lors de l'ouverture de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a terminé son discours par un appel pour l'accès au vaccin contre la Covid, que cet accès soit considéré comme un service de santé. Mais il y a des pays qui se sont obstinés dans la résistance. Enfin, il y a eu, nous avons cru que l'écho de l'appel de l'Afrique du Sud et de l'Inde ont été soutenus par l'OMS, et on a introduit encore en octobre une proposition pour qu'elle puisse suspendre provisoirement l'application des règles concernant les brevets dans le cadre de la lutte contre Covid. Cette demande a été encore rejetée par les pays où sont localisées les 15 plus grandes entreprises pharmaceutiques détentrices de brevets, États-Unis, Union européenne, Norvège, Grande-Bretagne, Japon, Suisse, Australie. Mais nous sommes heureux que le président de l'Assemblée générale des Nations Unies a obtenu le feu vert pour convoquer début décembre, donc du 3 au 5,
donc, aujourd'hui, qui commence aujourd'hui?
Qui commence aujourd'hui? Pour nous, c'est un événement très important, car ça va constituer une opportunité unique pour configurer et mettre en œuvre les actions communes, efficaces et coordonnées au plan mondial de lutte contre la pandémie dans l'intérêt et l'assurance du droit à la vie, à la santé de tous les habitants de la Terre. Nous sommes signataires d'une pétition qui a permis quand même que cette session sur la COVID soit tenue. Cette pétition a été signée par 1285 citoyens de 53 États du monde. Et nous demandons vraiment qu'au cours de cette session, on puisse réaffirmer que la santé des personnes, des peuples et des écosystèmes sont prioritaires. Et qu'on puisse abandonner durant l'année, la période 2021-2023, l'application des règles concernant les brevets sur les vivants, en particulier sur l'ensemble des outils médicaux, y compris les vaccins, de lutte contre la pandémie Covid. Et nous avons demandé qu'on décide la création d'une task force mondiale sous l'égide des Nations Unies sur la révision du régime juridico-institutionnel de la propriété intellectuelle à l'ère de la tropocène. Pourquoi nous disons tout ça? Parce que, effectivement, vous avez posé la question du mercantilisme autour de cette question. Les grandes firmes veulent s'enrichir, même si les États, les nations, les systèmes des Nations Unies, ils veulent les pousser à pouvoir soutenir leurs vaccins. Nous disons que c'est une bonne chose que les vaccins arrivent, mais d'abord que ça soit considéré comme un bien commun de l'humanité, que ça ne soit pas considéré comme une marchandise, mais comme un service, et mon prédécesseur a beaucoup insisté sur cela.
Voilà.
Notre question peut exister sur le fait que ces vaccins sont produits dans des pays occidentaux où ils ont eu du mal à gérer la crise de Covid. Et que nous ne sommes pas encore, parce que les essais aussi n'ont pas été réalisés dans nos pays, notamment en RDC et dans d'autres pays africains, où une sorte de stéréotype a été mis en marche pour essayer de dénigrer ces vaccins et avoir une sorte de peur de l'élimination de la race noire, etc. C'est un débat dans lequel je n'aime pas m'inscrire beaucoup. Mais étant donné que les essais cliniques n'ont pas été appliqués chez nous, tous les essais ont été faits dans les pays occidentaux. Ils ont été concluants. Ils veulent lancer leur vaccin. Maintenant, comment ces vaccins seront compatibles avec des gens ici qui ont aussi résisté déjà avant les vaccins contre la Covid?
Donc voilà, ça c'est une autre question sur laquelle les scientifiques, notamment les scientifiques africains, doivent se pencher. Et vous avez évoqué cette session qui commence aujourd'hui, mais est-ce que à l'issue de cette session, on ne va pas se rendre compte que, en dépit de toutes les décisions qui seront, n'est-ce pas, issues de cette session, que c'est finalement la logique des puissances qui ont financé ces différents vaccins, que c'est leur logique qui va s'imposer?
Oui, mais c'est ce que nous disons, c'est leur logique qui s'impose. Parce qu'aujourd'hui, le docteur Munyangi a parlé de son médicament, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, Artemisia. Nous avons entendu au Madagascar, au Sénégal et dans d'autres pays, on parle des recherches concernant cela, mais on ne le scrimine pas. On ne sent pas une dynamique mondiale qui dise que soutenons ces Africains qui ont si résisté contre la Covid dans leur démarche intellectuelle et scientifique pour trouver un médicament peut-être même propre aux Africains, mais qui peut aussi être compatible avec d'autres pays. On n'a pas senti. Mais d'un seul coup, parce que les grandes firmes de ce pays-là, qui annoncent la sortie, c'est comme les films. Un film va sortir en janvier, on en parle déjà en novembre, et les gens commencent à se préparer à l'acheter. C'est la même chose. Vraiment, c'est du capitalisme à outrance qui pousse les gens dans la peur, dans l'exaspération aussi, ou pour dire que, oui, nous sommes là, nous attendons à tout prix ces vaccins parce que c'est la panacée. Non. Nous disons qu'en tout cas, il faut faire attention parce qu'on ne fait qu'enrichir ces gentils. Malheureusement, c'est une question d'intérêt général existentiel même que si vous rejetez les vaccins aujourd'hui, c'est comme si vous appelez la mort. Et on nous met dans cet état de psychose même pour dire que si nous n'avons pas obtenu ces vaccins, nous sommes morts. Et nous savons peut-être qu'il y aura des directives, qu'il y aura des... Pour les gens qui voyagent, il faut à tout prix avoir ces vaccins. Mais quelle sera la compatibilité avec nous? C'est une question que nous nous posons. Et pourquoi simplement on fait ce coup, tout ça? Parce qu'on va dire que c'est gratuit. Oui, ça sera gratuit. Mais les grandes firmes seront payées. Pendant qu'on a délaissé les nôtres qui avaient déjà eu des expériences que personne ne veut accepter. On ne veut pas homologuer leurs expériences pour dire que les Africains ont réussi. Ça, vraiment, je pense que nos scientifiques devaient s'interroger et se prendre en charge par rapport à cela. Nous sommes dans un système mondial de la mondialisation où nous pouvons essayer d'échanger nos savoirs, mais pas simplement à l'avantage d'un État au détriment des autres. Il faut que ça soit quelque chose qui est partagé parce que c'est un bien universel. Ce sont nos spécialistes aussi qui sont dans ces grands centres où on a beaucoup de Congolais qui sont là-bas. Nos expériences sont portées. Dernièrement, le docteur Muyembe a fait un voyage en Europe, à Paris, partout. On l'a vanté ses mérites. On ne sait pas s'il a donné aussi quelques petites formules là-bas. Ça, nous ne savons pas. Mais ici, chez nous, nous, en tant que société civile, nous insistons que déjà, la République démocratique du Congo va prendre les rênes de l'Union africaine, que notre président aille avec cet agenda de la récupération de notre savoir intellectuel, la valorisation de ce savoir, afin que nous ayons nos produits qui sont adaptés à nous et qui nous profitent. Parce que les grandes firmes européennes, occidentales vont en profiter, mais les grandes firmes africaines aussi peuvent exister, qui sont produites par les États, qui en profitent aussi, parce que nous entrons dans la logique commerciale.
Merci beaucoup, Danny Singoma. Et nous allons prendre pour vous, docteur Mouvoudi, ce point de vue qui vient de Mbandaka.
J'ignore Bompong ou à partir de Mbandaka, province de l'Équateur. Avec cette course au vaccin contre la pandémie de Covid-19, ce qui me rassure est que nous nous approchons au bout du tunnel. mais la RDC comme pays au cœur de l'Afrique, avec une immense forêt tropicale remplie de plantes médicinales, doit savoir comment influencer sa diplomatie sanitaire en temps de COVID-19 et de croiser les bras et attendre ce qui serait sorti comme vaccin dans les laboratoires occidentaux. C'est à ce point qu'elle jouera un rôle incontournable dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.
Oui, docteur Michel Mouhoudi, la RDC a des atouts qu'elle peut faire valoir.
Alors, monsieur Guy, je pense que je l'avais mentionné dans le livre que j'ai publié très récemment sur la COVID-19. Hein. On est dans une approche de complémentarité. Lorsqu'on dit qu'il y aura un vaccin, on ne dit pas le reste tombe. Lorsqu'on dit qu'il y a un médicament traditionnel, on ne dit pas que le reste tombe, ou vice-versa, lorsqu'on dit qu'il y a un médicament qui vient de l'Europe, ça veut dire qu'il faut tuer la médecine traditionnelle. Non. Je l'ai toujours mentionné, nous avons des approches combinées. Autant aujourd'hui, nous avons vu justement qu'il y a des plantes qui ont des vertus thérapeutiques chez nous, qui ont beaucoup aidé, notamment dans la fortification de l'immunité, ainsi de suite. Autant aussi, nous ne sommes pas réservés de pouvoir utiliser les protocoles avec des médicaments comme la chloroquine, l'azithromycine, la vitamine C, le zinc. Et comme je vous l'avais mentionné, monsieur Guy, le succès thérapeutique qu'on a aujourd'hui, c'est ce protocole-là, mais on a vu beaucoup d'autres succès où ce protocole combiné à d'autres médicaments qui tirent leur, si vous voulez bien, leur essence des substances naturelles locales, faire des preuves. Donc, encore une fois de plus, ce que le collègue dit, n'allons pas dans un schéma de tout ou rien. Non, je crois qu'on peut toujours combiner, vous l'avez mentionné, le vaccin, c'est la prévention. Vous allez toujours avoir des gens malades, d'autant plus qu'on ne va pas vacciner toute la population, qui vont devoir avoir besoin des médicaments. Et encore une fois de plus, j'insiste, notre médecine traditionnelle, c'est très riche en pharmacopée et contient beaucoup de substances naturelles qui ont des vertus thérapeutiques. Et donc, nous allons aller dans ce sens. Deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut qu'on évite la confrontation, disant oui, parce que c'est tel qui l'a fait, ça veut dire que moi je ne peux pas, ou bien il a fallu que moi je le fasse pour que tel accepte. Je crois que ce qui est important ici, monsieur Guy, c'est de mettre en exergue la valeur ajoutée. Que ça soit un médicament du Sud, que ça soit un médicament du Nord, dès lors que ce médicament peut sauver une vie, dès lors que cette substance peut apporter de l'espoir à cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour que la population soit productive, je crois que l'essentiel c'est cela. Que ça soit un chercheur du Nord, de l'Est, de l'Ouest, je crois que mettons en premier le résultat. Mettons en premier ce qui sort. Et c'est là où moi je continue, encore une fois de plus, monsieur Guy, à insister auprès des pays africains d'investir suffisamment dans leur système de santé. C'est vrai qu'on se plaint, pourquoi est-ce que c'est la Grande-Bretagne, pourquoi est-ce que c'est la Belgique, pourquoi est-ce que c'est les États-Unis. Mais il faut regarder le budget que ces pays allouent à leur système de santé. Il faut voir le budget que ces pays allouent à la recherche. Venez demander le budget de vos pays en matière de santé, en matière de recherche. C'est là où vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir insister auprès des décideurs que la recherche doit être une priorité de l'État. Ne soyons pas jaloux de ceux qui en développent des économies, de ceux qui en développent des bénéfices, parce que justement, ils y investissent. Et ça démontre aujourd'hui clairement, quand vous regardez les budgets de l'État loués au secteur de la santé dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, qu'en fait, la santé, la recherche n'est pas vraiment notre priorité. Je crois que c'est ce que je pourrais dire à l'ami, en insistant aussi que quand on parle de la recherche, ce n'est pas que de la recherche en Occident, mais c'est aussi de la recherche sur les plantes que nous avons, et d'où l'appel que je lance toujours de soutenir aussi beaucoup la médecine traditionnelle et tous ces chercheurs qui sont en train d'y travailler.
Merci beaucoup, docteur Vincent Okoyo. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, Sud Kivu.
Abamungu Balibuza de Bukavu. Face aux milliards de dollars que ces vaccins pourraient générer aux entreprises pharmaceutiques des pays dits développés, nos faibles États africains ne peuvent rien. Le Madagascar avait déjà annoncé l'existence des remèdes à base de plantes locaux. Ni l'OMS, ni l'Union africaine, personne n'a songé à encourager les Malgaches dans les recherches. Aujourd'hui, comme ce sont les grandes puissances qui annoncent la sortie du vaccin, il devient d'office efficace. Face aux faibles moyens que nos États africains disposent en matière de recherche, face à l'impérialisme des grandes puissances, je ne vois pas les rôles que pourraient jouer nos États dans ce domaine.
Docteur Robertin Okoyo, votre réaction, quel rôle la RDC et l'Afrique peuvent concrètement jouer dans la recherche d'un traitement efficace, même si l'auditeur de Bukavu vous semble sceptique?
Oui, j'aimerais vraiment dire certaines choses pratiques qui peuvent peut-être orienter le rôle que la RDC pourra jouer dans ce contexte de lutte contre la pandémie à Covid. La première chose, c'est qu'il faut d'abord faire le distinguo entre la recherche médicamenteuse, la recherche du médicament contre le coronavirus et la recherche du vaccin. Le vaccin n'étant pas un médicament, le médicament a un rôle curatif, tandis que le vaccin a un rôle préventif. C'est un produit, mais qui ne soigne pas. Le vaccin ne soigne pas. Le vaccin renforce l'immunité de l'organisme. Alors, tout ce qu'il y a eu chez nous en Afrique, il faut le savoir, c'est des essais ou des débuts de recherche sur les médicaments. Il ne faut pas oublier une deuxième chose, c'est que c'est une maladie virale. Le coronavirus, c'est un virus. Et généralement, les virus sont très peu sensibles aux médicaments, je vais dire. Donc, les maladies virales n'ont pas vraiment des médicaments efficaces qui les soignent. La plupart des temps, c'est à travers la vaccination qu'on arrive à maîtriser les maladies, surtout les épidémies à base de virus. Troisième chose, d'où l'option sur le financement de la recherche pour les médicaments par rapport au financement du vaccin, le choix va être nettement différent. Même si certains protocoles, comme Dr Mouvoudi l'a évoqué, les protocoles qui se sont avérés efficaces, qu'il s'agisse de médicaments modernes que de médicaments traditionnels, mais à ce moment-là, vous avez suivi que la connaissance qui a évolué sur la physiopathologie de la maladie à coronavirus a permis d'adapter le traitement au fur et à mesure que les découvertes étaient faites. Et ces traitements-là étaient beaucoup plus symptomatiques qu'étiologiques. Donc, on n'attaquait pas directement le virus, mais on soignait les signes dus aux perturbations entraînées par la maladie dans l'organisme.
Et donc, pour vous, il faut mettre un accent particulier sur la recherche des vaccins.
Des vaccins. Et le monde occidental a levé cette option. Et vous avez suivi dès le début de la pandémie, il projetait déjà environ une année la trouvaille du vaccin, la découverte du vaccin qui peut être efficace. Ils ont mis l'accent sur la recherche du vaccin. Et il faut retenir, Guimaté, que la recherche du vaccin est une recherche de pointe qui ne peut pas se faire n'importe où dans n'importe quel laboratoire. Parce que c'est vraiment de la biologie moléculaire qui est étudiée et qui demande un équipement, qui demande un financement, qui demande un personnel qualifié, de haut niveau, qui peut conduire une recherche comme ça. Et dans nos pays africains, malheureusement, je sais que l'Institut Pasteur de Dakar a un certain niveau, et peut-être en Afrique du Sud aussi, un certain niveau d'équipement, mais je ne vois pas de centres de recherche qui réunissent suffisamment de conditions
Merci.
De pouvoir mener une recherche sur le vaccin, comme dans les pays développés.
Merci, docteur. Le temps de donner aussi la parole à Denis Ngoma pour qu'il réagisse à cette réflexion qui vient de Beni, au Nord Kivu.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, ces recherches sur le coronavirus sont salvatrices à ce moment où cette pandémie fait encore des ravages. Néanmoins, pour le cas du vaccin, nous souhaiterions que la vaccination puisse commencer dans les pays européens, de l'Amérique et pourquoi pas asiatiques. Et ne pas nous dire qu'ils viendront tester l'efficacité de ces vaccins en Afrique. Je me suis toujours demandé si l'OMS n'a que l'Afrique comme terrain d'action, pendant que cette pandémie ravage les pays européens, asiatiques et de l'Amérique. Donc le vaccin, oui, nous disons oui, mais qu'il commence la vaccination en Europe, car nous n'avons pas jusque-là de certitude que ces différents vaccins découverts n'ont pas de conséquences néfastes.
Denis Ngoma, vous voyez cet auditeur qui évoque ces défis, comme l'a souligné le docteur Michel Mouvoudi, les défis de l'acceptation sociale. Et comment pourra-t-on, n'est-ce pas, relever ces défis, en Afrique notamment?
Oui, effectivement, comme dans tous les précédentes émissions, nous avions dit qu'il y a un déficit de communication dans la lutte contre la COVID-19 et aussi il faudrait arriver effectivement à se surpasser par rapport à ces défis de communication. Il faut que les comités qui sont en lutte contre la COVID puisse développer un système de communication plus élaboré et qui va vraiment à la rencontre de la population. Ici, déjà, il y a une petite confusion sur les vaccins, parce que dans l'imaginaire collectif, on pense que quand le vaccin va sortir, c'est pour venir directement le tester en Afrique. Or, ici, il s'agit des vaccins qui ont déjà, comme les prédécesseurs l'ont dit, qui ont terminé des phases, je ne sais pas comment vous les appelez, BC ou cliniques, et qui vont maintenant commencer à être administrés. Au contraire, l'Afrique en aura besoin. L'Afrique va pleurer. Peut-être qu'on risque de mettre l'Afrique à genoux pour supplier de lui envoyer les vaccins. C'est ça encore qui est une crainte. Comme l'a dit un de mes prédécesseurs, je m'excuse d'oublier son nom, il a bien dit qu'il y a des mécanismes au niveau de l'OMS, des Nations Unies, qui permettent l'accès des pays les plus pauvres à ces vaccins. Donc il ne faut pas que ça soit une question de se plier, de se courber pour avoir ces vaccins, mais que ça soit vraiment automatique, parce que ça existe, que ça soit un bien universel, comme je l'ai dit, nous luttons pour cela. Mais simplement, nous luttons aussi pour que ça ne soit pas quelque chose, comme je l'ai dit, pour nous mettre à genoux, mais qu'on arrive à mettre un peu en berne la question de la propriété intellectuelle et la question des vaccins pendant cette période de 2021-2023 pour permettre que nos firmes pharmaceutiques puissent recopier ces vaccins comme on le fait avec les génériques. Bon, je ne sais pas, la limite scientifique par rapport à cela, je suis un peu limité, je ne sais pas me prononcer davantage, mais je pense que nos laboratoires sont capables de reproduire un vaccin qui a été produit en Europe. Mais ce qui nous freine, c'est la question de la propriété intellectuelle. Alors, il faudra que cette question des brevets, qu'un moratoire soit trouvé autour de cela pour que nos pays puissent aussi les produire et qu'ils aient des moyens pour les produire. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a un mécanisme international qui va pour le soutien à la production des vaccins, pour éviter que ça ne parte qu'aux plus riches, parce qu'ils l'ont découvert et qu'ils ont monté les enchères avec les brevets, il faut que les pays pauvres qui ont la capacité de reproduire soit à mesure aussi d'être financé, afin de les produire et de les donner à la population sans qu'on puisse mettre le pays à genoux.
Merci, nous tendons vers la fin de cette émission. Docteur Michel Mouvoudi, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite dans la lutte contre la COVID-19?
Alors, en guise de conclusion, monsieur dit deux petits mots. Donc, le premier mot, c'est d'abord encourager tous les chercheurs du monde à avancer sur cette piste de la recherche du vaccin. Donc, que ce soit les chercheurs occidentaux ou les chercheurs africains, je crois que nous devons travailler ensemble pour arriver à une réponse collective. Deuxièmement, je pense que la communication va être encore un outil très important pour faire ce travail en RDC. Et je crois que nous devons déjà anticiper là-dessus. Et il est important que le pays commence déjà à se préparer pour mettre en place des mécanismes d'acceptation sociale.
Merci.
Et sur cette piste-là, on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas que le travail du comité de riposte, mais c'est justement l'ensemble des leaders d'opinion, ce sont les autorités politico-administratives, la société civile. Eh bien, nous aurons besoin de tout le monde.
Merci.
Pour justement arriver à faire véhiculer des messages potables et faire réussir ce programme de vaccination qui va beaucoup aider à ce qu'on s'en sorte et relancer nos économies respectives.
Merci, docteur Vincent Okoyo. Votre conclusion?
Je voulais dire à mon compatriote de Beni, Fabrice, je crois, c'est ça son nom, que le vaccin qui est trouvé est d'abord trouvé pour les populations européennes et américaines qui en ont grandement besoin et qui se préparent d'ailleurs, qui préparent leur logistique pour vacciner leur population, et que ce vaccin viendra secondairement en Afrique, financé par les bailleurs de fonds, peut-être occidentaux ou d'ailleurs, notamment pour éviter que le coronavirus ne persiste en Afrique et qu'il ne rentre en Europe. Deuxième chose, j'aimerais dire que la recherche ne s'arrête pas, comme Dr Michel l'a dit, avec cette trouvaille. Les autres firmes qui continuent à mener leur recherche vont poursuivre et peut-être que des améliorations de vaccins.
Merci.
Et de l'immunisation viendront avec ces recherches ultérieures.
Merci, Dany Singoma. Votre conclusion?
Merci beaucoup. Ma conclusion, c'est vraiment que la COVID ne soit pas une occasion d'approfondir le capitalisme marchand en matière de santé, mais que ça soit vraiment une occasion pour les populations de se retrouver avec un mécanisme mondial de solidarité qui est mis en place et dans lequel notre gouvernement participe, afin que chacun ait accès effectivement aux biens nécessaires de ces vaccins.
Merci au docteur Michel Mouvoudi, docteur Vincent Okoyo et Dany Singoma qui ont accepté de participer à cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, à Kéline Kouté et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.